Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Des personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans, et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
J'ai marqué.
Bah, un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.
Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouveau numéro d'À vous les Burgiens, nous allons parler d'un danger invisible mais qui fait beaucoup parler, les pesticides. Ces produits chimiques sont très utilisés par les agriculteurs pour éliminer les nuisibles, mais ils sont aussi potentiellement dangereux pour la santé. Un groupe d'habitants de l'Ain a même choisi de faire analyser ses urines pour relever le taux de glyphosate, l'herbicide le plus utilisé au monde. Une porte-parole du groupe est avec nous en studio pour parler de cette initiative. Et par téléphone, vous entendrez Emmanuel Amar qui a dévoilé l'affaire des bébés sans bras dans l'Ain et une endocrino-gynécologue. Elles parleront de l'état de la recherche scientifique sur les dangers des pesticides. En deuxième partie, des membres de la MJC de Bourg, la Maison des Jeunes et de la Culture, elles viennent nous parler des 50 ans de l'association.
Radio B.
Les pesticides, ce sont des produits chimiques répandus par pulvérisation ou poudrage sur des surfaces cultivées pour les protéger contre des nuisibles. Leur utilisation fait débat depuis plusieurs années. Le gouvernement veut d'ailleurs la réduire. L'épandage des pesticides est déjà encadré par la loi française. Il est interdit notamment de répandre ces produits quand le vent est supérieur à 20 km/h ou encore si la zone est fréquentée par des enfants. Et depuis le 1er janvier 2020, il est interdit de répandre à moins de 5 ou 10 mètres d'une zone habitée ces pesticides. Une décision qui ne plaît pas aux agriculteurs, qui pour certains ont besoin de ces pesticides pour entretenir leur culture. La FNSEA, le premier syndicat agricole, s'est d'ailleurs opposée à cette décision du gouvernement appliquée depuis le début de l'année. Aucune aide n'est pour l'instant apportée aux agriculteurs pour les dédommager des pertes entraînées par ces nouvelles mesures qui leur font perdre de l'espace pour cultiver. Mais ces pesticides sont aussi vus comme dangereux pour notre santé et leurs effets sont étudiés par des chercheurs. Leur effet sur notre système hormonal a d'ailleurs été prouvé par plusieurs études, mais dans d'autres cas, leur côté néfaste est compliqué à démontrer, comme dans l'affaire des bébés sans bras. Il y a 2 ans, Emmanuel Amar a dénoncé la présence de 8 malformations chez des nouveau-nés entre 2009 et 2014. C'est ce que les médias ont surnommé l'affaire des bébés sans bras. Cette ancienne infirmière est directrice au registre des malformations du Rhône-Alpes, le REMERA, une association qui répertorie les malformations. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui est à l'origine des bébés sans bras, mais les pesticides étaient pointés du doigt. Ce qui est sûr pour Emmanuel Amar et son équipe du REMERA, c'est que la cause de ces malformations vient de l'environnement dans lequel étaient les mères du fœtus.
Première question qu'on se pose, puisqu'il s'agit d'un phénomène environnemental vraiment plausible, comment il serait arrivé à l'embryon? Parce que c'est à la période embryonnaire où les malformations se créent. Il serait arrivé par une voie, et laquelle? Alors on a pensé à la voie orale. Par exemple, l'eau. Quand on parle d'eau, on parle d'un véhicule de ces substances, il faudrait bien qu'elles soient arrivées dans l'eau, donc on a pensé nappe phréatique, écoulement, mais on est toujours au conditionnel.
Santé publique France, un institut de recherche tenu par le ministère de la Santé, a procédé à une enquête pour étudier ces cas de bébés mal formés, sans grand résultat.
Je crois que tout est à l'arrêt. Il devait y avoir en janvier les conclusions du comité d'experts qui, je ne sais pas si c'est réuni, en tout cas il n'y a pas eu de conclusion autre que celle que nous avons eue en juillet 2019 qui nous disait on s'arrête là, on n'a pas trouvé de cause commune. C'est un petit peu comme les agrégats de cancer pédiatrique où dès lors qu'on n'a pas trouvé la même cause pour tout le monde, on arrête les investigations, ce qui d'un point de vue scientifique n'a pas de sens. Sous la houlette des hospices civils de Lyon, les hôpitaux CHU lyonnais, et notre rôle est donc de collecter l'information sur les malformations et leurs facteurs de risque et d'alerter le cas échéant en cas d'anomalie dans la fréquence de survenue de ces malformations.
Si les bébés sans bras restent encore un mystère aujourd'hui pour la science, des chercheurs ont quand même prouvé que certains pesticides étaient des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des substances qui modifient notre système hormonal. Pascale Mirakian organise chaque année un colloque sur ce sujet. Elle est endocrino-gynécologue.
On a de nombreuses études qui montrent l'effet perturbateur endocrinien des pesticides, en particulier sur le cancer du testicule, sur le cancer de la prostate. Ils commencent à avoir des études. Les pesticides, ils ont aussi un impact sur la reproduction et sur les hormones, en particulier sur la puberté précoce des femmes, par exemple, et l'infertilité masculine et féminine. Donc il y a plusieurs études qui vont dans ce sens.
Ces problèmes de santé peuvent être transmis au fœtus si la mère est exposée aux pesticides.
Il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent, lorsqu'on fait des analyses dans le sang du cordon du fœtus, donc ce qui relie la mère à l'enfant, on peut doser des pesticides, des phtalates, des PCB, des dioxines. Enfin, on retrouve tous les polluants de l'extérieur dans le sang du cordon. Et à ce moment-là, ils vont effectivement contaminer le fœtus, ce qui fait que le bébé naît prépollué. Actuellement, dans la clinique, on a une étude où on prélève les cheveux des bébés à la naissance, dans la condition qu'ils aient des cheveux, donc c'est toujours compliqué de les trouver. Et on est en train de montrer que les cheveux des bébés sont porteurs de ces polluants qu'ils ont absorbés via le sang du cordon, donc via l'exposition de la mère. On a des anomalies des organes génitaux externes qui sont observées à la naissance de petits garçons, de mamans exposées aux pesticides, donc dans les familles d'agriculteurs par exemple.
Et pour la 10e année, le docteur Mirakian organise un colloque à Lyon le 7 avril sur l'impact de l'environnement sur la santé de la femme et de l'enfant. Emmanuel Amar est d'ailleurs invité pour parler de l'avancée de ses recherches sur l'affaire des bébés sans bras.
Radio B.
Radio B.
Et du côté des citoyens, on s'inquiète des effets de ces substances chimiques répandues dans les champs. Un pesticide est particulièrement connu, le glyphosate, commercialisé par l'entreprise Monsanto. C'est l'herbicide le plus utilisé au monde. En 2015, il est classé cancérigène probable par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Et surprise, on peut même les retrouver dans nos urines, ces pesticides. Un groupe de citoyens de l'Ain a d'ailleurs lancé une campagne d'analyse d'urine pour dénoncer la présence du pesticide dans notre corps et dans notre environnement. Jocelyne Michelin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'une des membres de la campagne Glyphosate 1. L'analyse d'urine se fait dans plusieurs villes, il y a même des célébrités qui ont joué le jeu. Mais pourquoi avoir lancé l'idée ici, dans l'Ain ?
Voilà, donc cette opération, cette campagne s'est déroulée tout au cours de l'année 2019. Donc au début de l'année, c'est Anne Forestier qui a connaissance de cette campagne. Elle transmet à Candice, à Coralie, à Marie-Agnès. Marie-Agnès m'en parle et nous voilà partis. Thierry nous rejoint un peu après. Et voilà. Donc, une information a lieu au mois d'avril au Vox. Là, il y a Sylvain et Christian qui ont organisé une campagne sur Lyon. Ils sont là avec nous au Vox et ils expliquent le pourquoi et le comment aux personnes qui sont présentes. Donc là, nous nous penchons sur la procédure et nous mesurons la complexité de l'affaire. Donc, nous organisons déjà deux dates pour commencer. Une première date le 20 juin et une seconde date le 26 juin. Il faut savoir que le prélèvement d'urine, donc le protocole, nous demandait aux personnes qui souhaitaient faire analyser leur urine de venir le matin à jeun, de ne pas avoir ni bu, ni mangé, ni fumé depuis minuit. Et puis, bien sûr, de ne pas avoir uriné. Il y a des personnes qui ont fait, enfin une ou deux personnes qui ont fait 90 km pour venir au prélèvement. Donc, chapeau, on les remercie.
Ça a dépassé l'Ain ou ça a resté dans l'Ain quand même?
Ça a dépassé l'Ain, puisqu'on a eu une ou deux personnes de Saône-et-Loire.
D'accord. Et donc, pourquoi ce groupe de personnes était impliqué contre le glyphosate? Pourquoi vous, personnellement?
Parce que nous sommes chacune de notre côté par rapport à nos proches, par rapport à l'environnement, par rapport à des paysans que l'on connaît, pour plein de raisons, par rapport à des gens de notre famille qui sont malades ou d'autres personnes qui sont malades. Et nous sommes sensibles à ce sujet et nous estimons que là, comme la personne qui a été interviewée tout à l'heure disait, on retrouve tous les polluants du sang du bébé dans le sang du cordon du bébé. Ça, moi, c'est une phrase qui m'atterre, littéralement.
Et donc, vous parliez de gens qui ont des maladies. Est-ce que vous en connaissez personnellement? Est-ce que vous savez que c'est dû à cause des pesticides?
Voilà. Alors, je connais des personnes qui sont malades personnellement. Je connais en particulier les enfants de paysans. Cette jeune femme, elle a 32 ans. Elle a des enfants qui sont assez jeunes. Et puis, elle est malade. Alors, je n'ai pas pu discuter vraiment avec ces personnes parce que les parents sont exploitants. Et je pense qu'il y a chez les exploitants un certain déni. Non, c'est pas possible, ça peut pas venir des produits phytosanitaires, ça vient peut-être d'autre chose. Mais nous, on les utilise raisonnablement, donc... Alors, je sais pas, je leur en ai pas parlé vraiment directement, c'est très compliqué, c'est très délicat. Mais on peut se poser la question. Je connais d'autres personnes également, en particulier une mamie qui a un petit-fils qui est malade. Et d'autres, plein d'autres, nous connaissons tous, chacun de notre côté, dans notre famille, dans nos connaissances, des personnes qui sont malades. Il se trouve que on constate bien évidemment l'augmentation du nombre des cancers, c'est évident. On remarque également que les cancers atteignent des personnes de plus en plus jeunes. Donc il y a quand même de quoi se poser la question. Et puis, moi ce que je n'ai pas compris non plus dès le départ, je ne connaissais pas trop tous ces problèmes de produits phytosanitaires, mais quand on a commencé à étudier tout ça, on s'est dit, mais alors la dose maximum autorisée, pardon, la dose maximale autorisée dans l'eau potable est de 0,1 nanogramme par millilitre. Effectivement, c'est très peu. Mais, je suis désolée, mais la dose normale devrait être zéro. Et pourquoi oui. Autoriser un certain taux alors que normalement, ça devrait être zéro?
Est-ce qu'on retrouve donc ces présences de pesticides, donc de glyphosate pour votre campagne, c'est à cause de l'eau qu'on boit? Ce serait dans l'eau qu'on les retrouve?
Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement d'où ça vient. Il faudrait faire des études beaucoup plus approfondies que celles qui ont été déjà faites, parce que c'est très complexe. Un cancer peut être développé à partir de causes diverses et variées. Donc, il est très difficile d'accuser uniquement les produits phytosanitaires. Alors, quand je dis produits, effectivement, nous avons décidé de doser le glyphosate, puisque c'est ce qui a été fait par les groupes précédents en France. Mais sous le terme de glyphosate, il faut bien mettre avec ce mot tous les autres produits phytosanitaires qui sont utilisés par les agriculteurs, mais qui sont également utilisés à titre personnel dans nos maisons. Il y en a dans les insecticides, dans le collier à puces de vos chats, dans le... voilà, partout. Hein. Donc, c'est... Voilà, la situation devient grave. Il faut savoir que en 2019, la vente de produits phytosanitaires a augmenté de 25%, alors qu'il était prévu que cette consommation serait diminuée. Et en fait, ce n'est pas le cas. On a 25% d'augmentation. C'est hallucinant.
Et donc, pour revenir à cette campagne, son but, c'est de dénoncer l'omniprésence, voilà, en fait, de ces pesticides autour de nous.
Tout à fait. C'est un mouvement citoyen qui vise à sensibiliser tout le monde, hein, le public, à la dangerosité de ces produits.
Donc là, votre démarche, vous avez commencé à nous raconter un peu le calendrier. Elle en est où aujourd'hui?
Alors, nous avons fait au total donc, trois prélèvements. Donc, un prélèvement le 20 juin, un le 26 juin, et nous en avons rajouté un troisième le 4 octobre. En tout, 83 personnes sont venues faire pipi dans les tubes. Donc, 83 personnes sont venues et 66 ont porté plainte. Parce que le but de cette campagne, ça a été... Il y a eu un double objectif. Le premier, c'est que les personnes ont pu de cette façon connaître le taux de glyphosate qu'elles avaient dans leurs urines. Et dans un second temps, elles pouvaient, si elles le voulaient, porter plainte. Donc, ces plaintes vont être... donc elles sont finalisées, hein, ça représentait un travail considérable. Merci à tous. Alors, je remercie donc encore toute l'équipe, donc Anne Forestier, Marie-Agnès Bernard, Thierry Curnillon, qu'est-ce que j'oublie ? Candice Rude et Coralie. Coralie, j'ai oublié de te faire un petit coucou. Nous te remercions beaucoup pour ton soutien et tes encouragements. Coralie a dû quitter l'Ain pour des raisons professionnelles et elle a suivi nos travaux de façon soutenue. Elle nous a bien encouragés. Merci Coralie. Voilà.
Donc une équipe derrière tout ça, un travail considérable. Donc là, les plaintes, elles vont devenir quoi ?
Les plaintes sont finalisées maintenant, ça y est. Et nous, jeudi, nous allons les porter au tribunal. Donc, chaque personne porte plainte en son nom propre, sachant qu'ensuite, tout est groupé, tout est rejoint. Donc, nous portons les 66 plaintes au tribunal jeudi en début d'après-midi. Et ensuite, ces plaintes vont prendre la direction de Paris. Toutes les plaintes de France, donc, concernant ce sujet, seront centralisées sur Paris, en attendant un procès.
Donc le but final, c'est un procès contre qui ?
Alors, contre toutes les personnes qui ont été en charge de l'homologation, de la distribution, de tout ça, dans une période donnée.
Donc des entreprises, voilà. Alors, des politiques qui
bah, écoutez, en fait, on ne donne pas de nom. Hein. Mmh. On ne donne pas de nom. On porte plainte contre toutes les personnes qui ont été en charge en charge des décisions concernant la commercialisation de ces produits. L'homologation, la commercialisation, tout ça.
Donc comme il n'y a pas de personne précise, c'est un procès symbolique, on peut dire.
Je ne sais pas après comment ça sera apprécié par le personnel judiciaire, mais ça, on leur laisse, on les laissera faire leur travail.
Donc le but, c'est quand même d'alerter peut-être les citoyens, en fait.
Absolument,
les pouvoirs publics.
Je peux préciser qu'il y a 3 chefs d'accusation, si je peux les développer.
Oui, si ce n'est pas trop compliqué pour nos auditeurs.
Ben, je ne sais pas, je vais essayer d'être assez simple. Hein. Enfin, c'est important quand même de connaître les trois chefs d'accusation. Donc le premier, c'est mise en danger de la vie d'autrui.
Jusque-là, voilà. Ça va.
Bon, ça va, c'est pas trop difficile. Alors, il faut savoir quand même que, c'est ce que je disais tout à l'heure, les preuves sont très difficiles à établir hein, par rapport au cancer et tout ça. Mais beaucoup d'études, quand même, sont d'accord pour cibler quelques cancers, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, tout ça. Bon, voilà, reste à prouver. Alors, nous n'avons pas la capacité, nous ne sommes pas scientifiques. Donc, ce n'est pas du tout une étude scientifique que nous avons menée, bien évidemment. Nous n'avons pas la compétence. Nous laissons ça justement aux personnes compétentes. Deuxième chef d'accusation, atteinte à l'environnement. On sait très bien et on nous le répète à longueur de journée que la biodiversité diminue. Voilà, il n'y a plus beaucoup de vers de terre dans la terre. Il n'y a plus de tout ce qui rendait la terre vivante et productive n'existe plus. C'est dramatique. Les gens qui sont attachés à la vie et à la santé, voilà, c'est vraiment... En fait, on a commencé par tuer déjà la Terre elle-même. Hein? Et par conséquent, on est en train de tuer les gens. Enfin bon, je parle, c'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais quand même. On risque, en tout cas.
Donc il y en avait un voilà. Troisième.
Alors le troisième, comment j'ai mâché mes mots ? Okay. Ah oui, tromperie aggravée. Alors tromperie aggravée. Alors je vais vous citer une phrase que j'ai trouvée sur internet, hein, parce qu'il y a plein d'articles qui parlent de ça, bien évidemment. Donc je cite la phrase. Il a été noté également dans le cas du volet environnemental de la procédure d'homologation qu'il était très difficile d'accéder au dossier. Je ferme les guillemets. Cette phrase résume la politique du secret sur les conclusions alarmantes des études indépendantes. Voilà, c'est-à-dire que certains dossiers sont cachés. Voilà, il y a une politique du secret qui fait que, voilà, on peut commercialiser, on peut vendre, il n'y a pas de problème. A priori, voilà.
Donc, pour revenir sur votre implication personnelle, est-ce que vous, au quotidien, vous avez peur de la présence des pesticides ? Est-ce que ça vous préoccupe ?
Moi, je ne suis pas très... Je suis pas très peureuse. Je fais confiance à la vie. Et quand je vois dont nous sommes quelques personnes d'un certain âge, enfin bon, 60 ans passés, disons, mais pas que. Avec nous, il y a des jeunes. Et ça, c'est formidable. Et je guette, moi, je suis à l'affût de toutes les initiatives qui préparent l'avenir et qui préparent une autre façon de s'alimenter, une autre façon de cultiver. Et je suis sûre que les jeunes vont changer tout ça.
Donc parmi les plus de 80 personnes qui ont participé à votre campagne, il y avait des jeunes quand même, une bonne partie, ça représente combien?
Alors ça effectivement, j'ai pas vraiment les... Si je peux avoir peut-être les... J'ai pas tous les chiffres.
Environ un quart, moitié. On n'est pas à la pièce.
Non, on n'est pas à la pièce. Il y avait des jeunes, effectivement. Moi, j'ai rencontré des jeunes qu'on voit partout, dans les foires bio, dans tout ça. Oui, bien sûr, il y avait des jeunes. Alors, c'est toujours pareil. Devant le micro, c'est pas facile de trouver ces...
Bon, c'est pas très grave, sinon,
je sais même pas si
ce chiffre. Donc, est-ce que vous avez changé vos habitudes de consommation? Est-ce que vous allez plus vers du bio?
Moi, ça fait longtemps que je me dirige plus vers le bio, dans la mesure de mes moyens, effectivement. Je mange de plus en plus bio. Alors après... Comment vous dire? Alors, il ne faut pas résumer tout ça à manger bio. Effectivement, la plupart des personnes qui sont venues participer donc, en donnant leurs urines pour savoir leur taux de glyphosate, la plupart mangent bio, ils ont un jardin bio, et n'utilisent pas de pesticides et tout ça. Ils en ont quand même. Ils ont quand même du glyphosate dans leurs urines. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse, mais il faut savoir qu'il y en a partout, du glyphosate. Il y en a essentiellement dans l'eau, puisque les produits phytosanitaires qui sont épandus dans les champs se retrouvent forcément dans l'eau. Et à partir du moment où il y a une dose minimale qui a été établie pour l'eau potable, il y a forcément 0,1 nanogramme par millilitre dans l'eau, si ce taux supérieur est respecté.
Donc ce que vous dites, c'est que c'est les gens les plus impliqués contre les pesticides, finalement, qui ont participé et qui ont quand même
tout à fait
des taux dans leurs urines.
Absolument.
Donc ils font tout pour pas qu'il y ait ces taux, mais ils sont là.
Ils sont là quand même.
Même si on fait tous les efforts du monde, c'est partout. C'est ça le résumé de cette
campagne.
Exactement.
Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas résumer, à glyphosate. Et si on ne veut pas glyphosate, il faut manger bio. C'est pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça.
Donc, prochaine étape, c'est ce jeudi 13 février. C'est quelle heure, quel endroit?
14h au palais de justice à Bourg.
Ok. Donc, merci Jocelyne Michelin d'être venue. Vous faites partie, donc, je le rappelle, de la campagne Glyphosate 1. Et pour rappel, interdire le glyphosate pour 2021, c'était une promesse du candidat Macron. Il y a un an, il a quand même avoué que ça allait difficilement pouvoir se mettre en place. Après une courte pause musicale, nous retrouvons deux membres de la MJC de Bourg-en-Bresse, la Maison des Jeunes et de la Culture. Elle fête ses 50 ans. Mais pour l'instant, écoutez Baptiste Ventadour avec Spring.
I will always be there, cause we lost everything that Jerry and I in a spring. They came in our small town and brought us down. They took everything we loved. We had to run away, it was already too late. We had nothing to leave behind. Oh, we were the only ones left alone together, just you and me on the hill. Oh, when you see the sunshine, just don't back down. No, we had to keep pressing on, all thinking of where we'll fly. It's on my mind, but I know you'll give it all. And when I see your eyes there, burning all the while, with the same rage, all those smiles, we have to stay on track, on road for the payback. To friends, never turn back. Thank you.
we will search everywhere for a new place to live, a new country beyond the clouds. Life is always sunny across the mountainside. We call witness the tide. We got on our knees and cried. We found our place to be, just somewhere near the sea. Revenge, just you wait and see. Remember our old homes and our families. No, it's all your fantasy. And watching your brothers just playing by the sea, it was really fun to see. We shall all through them to bear their soul, all the saints, to birth them into flames. And I will always sing and keep strumming these strings to tell you the story of our spring.
C'était Baptiste Ventadour avec Spring. L'artiste corrézien sera en première partie du groupe de rock Eiffel vendredi 14 février à la Tannerie.
Radio B.
Cinquante ans déjà pour la MJC de Bourg-en-Bresse, une semaine spéciale avec plusieurs rendez-vous est proposée pour bien fêter ça. Avec nous pour en parler en studio, Anne-Claire Turc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée de mission culturelle à la MJC et Nadège Tissot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice à la MJC. Alors Nadège Tissot, c'est quoi le rôle d'une MJC ?
Les MJC sont des associations. Elles font partie de l'économie sociale et solidaire. Elles sont reconnues d'intérêt général. Donc, si vous voulez faire un don, on peut vous prescrire un revenu fiscal. Voilà. Elle a une vocation, c'est gérer un projet et un équipement au profit des habitants d'un quartier, d'une commune. Elle a pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes. Voilà, c'est afin d'accéder à l'éducation et à la culture pour s'émanciper.
Donc celle de Bourg-en-Bresse, c'est un quartier en particulier qui est visé ou c'est toute la ville ?
C'est toute la ville. On est proche effectivement de la Ressouze. C'est vrai que le boulevard Julio-Curie fait une frontière naturelle. En tout cas, nous organisons avec le centre social de la Ressouze pour travailler en commun. Nous, on y va, eux, ils viennent. On crée des projets communs. Mais on intervient sur toute la ville.
Donc c'est quel public qui vient ? Parce que dans le nom, il y a jeunes. Est-ce qu'il n'y a que des jeunes qui viennent dans cette MJC ?
Non, il n'y a pas que des jeunes. Non, loin de là. Il y a effectivement beaucoup de jeunes autour des projets, notamment avec les centres sociaux, les centres de loisirs, des partenaires un peu privilégiés, enfin pas privilégiés, mais des partenaires qu'on rencontre, qu'on reconnaît sur la ville, qui sont la tannerie, le théâtre, le CPA, je ne sais pas, il y en a plein d'autres. Et puis il y a aussi toutes les activités qu'on mène au sein de la MJC. Donc par exemple les dentelières, elles sont plus très jeunes, mais en tout cas elles ont un rôle très actif au sein de la MJC par exemple.
C'est qui les dentelières pour ceux qui ne connaissent pas ?
Alors nous avons des activités au sein de la MJC, nous pratiquons, il y a des activités comme le yoga, la dentelle, de l'expression artistique, de la danse, du hip-hop, on a des ateliers poterie, enfin plein d'autres, je vais en oublier bien évidemment, et donc nous avons des dentelières qui sont là une après-midi par semaine et puis qui dentellent, quoi. Voilà. Et elles ont un rôle aussi un peu particulier parce que c'est elles qui organisent avec le coordinateur des activités les goûters sur les mercredis juste avant les vacances pour les enfants. Voilà, donc il y a aussi un travail intergénérationnel qui se fait.
Donc déjà 50 ans, comment elle a évolué cette MJC ?
Eh bien, comment elle a évolué? Alors, on va dire que le commencement, vous pouvez le retrouver sur le site internet, à la page Oscilloscope, avec la vidéo, enfin avec le film, le documentaire qui a été tourné à l'occasion de l'inauguration en 1970, ou un petit reportage, donc vous pourrez découvrir aussi Bourg-en-Bresse, le reportage, donc le maire de la ville remet les clés à l'animateur de la MJC qui n'a absolument aucun projet au départ. Voilà, chose qu'on ne verrait pas aujourd'hui. Voilà. Et puis, dans son évolution, on va dire qu'aujourd'hui, la MJC, c'est un lieu ouvert à tous, sans discrimination, sans préjugés, un lieu de brassage des cultures, d'apprentissage du vivre ensemble, d'éducation permanente. C'est un lieu artistique aussi, c'est un incubateur de création et qui vient nourrir le terreau culturel du territoire de Bourg.
Donc bientôt, vous serez dans des nouveaux locaux, c'est ça?
Tout à fait, la Maison de la Culture et de la Citoyenneté.
Donc vous avez hâte? Comment ça se passe le déménagement? Ça va être quand?
Alors oui, nous avons hâte parce que moi j'arrive en 2015 et ça fait déjà 2 ans que les gens travaillent sur le projet. Donc les gens, c'est aussi l'AGLCA et Altec, voilà, qui sont les associations qui vont animer cette MCC avec la MJC. Oui, on a hâte. Comment ça va se passer? Eh bien, ça va se passer déjà très prochainement puisqu'on emménage dans 4 semaines. Voilà, et ça va se passer. Il va falloir qu'on prenne nos marques. L'idée, c'est effectivement de continuer à faire nos missions et puis surtout de créer d'autres choses en commun avec nos colocataires, la GLCA et Altec, et notamment sur un projet qu'on a déjà travaillé, qui est la microfolie.
Donc plein de beaux projets pour les années à venir pour cette MJC. Il y a d'autres choses en particulier dans les 50 prochaines années, si vous êtes toujours là?
Eh bien, bien sûr qu'on sera là. Surtout développer effectivement cette microfolie donc, qui va accueillir un musée numérique, un atelier lab et puis voilà, une belle découverte. Voilà, qu'on continue toujours à accueillir les artistes, à être force de proposition, un accompagnement sur les créations artistiques. Oui, bien sûr. J'espère qu'on sera là dans 50 ans.
Il n'y a pas de raison. Donc, Anne-Claire Turc, comment vous avez pensé cette semaine de festivités pour les 50 ans?
Alors, c'est un événement qu'on ne voulait pas du tout nostalgique. On ne voulait vraiment pas faire du rétrospectif, d'autant que dans l'équipe, on est assez nombreux à être récents arrivés. Donc, on voulait faire quelque chose en partenariat avec toutes les associations, les artistes qui font vivre le bâtiment, dans une dimension de partage et dans un esprit un peu labo, qui brasse à la fois les esthétiques, les publics. Et donc, on a intitulé l'événement Oscilloscope 50 ans de vibrations positives. L'oscilloscope, en fait, c'est l'outil qui permet de mesurer l'activité ou le signal électrique. Et donc, on avait vraiment envie de montrer qu'il y a une activité bouillonnante à la MJC. Voilà, donc on était vraiment dans l'idée d'un événement laboratoire avec des brassages d'esthétique, de public, que toutes les générations puissent se croiser, expérimenter et venir découvrir de nouvelles choses.
Donc, est-ce que vous avez, disons, 2-3 événements qui vous ont particulièrement marqué pour cette semaine de célébration?
Oui, alors on a plusieurs soirées, concerts, spectacles qui vont se dérouler, notamment une le 14 février qui s'intitule 50-50, en partenariat du coup avec l'association Les Capotes. Et donc là, on pourra retrouver des choses très très variées, aussi bien des matchs d'impro, donc sur un vrai ring, on y va à fond, on joue le jeu. Tout le monde peut venir s'inscrire pour participer à ce match. Voilà, il y aura aussi un open mic avec Rimé, le concert des Frères Parish, donc qui devait avoir lieu au DTK puis qui avait été malheureusement annulé, donc ils viennent le 14 février à la MJC. Voilà, pour cette soirée-là. Et puis, donc, on a pensé aussi, tout au cours de l'événement, plein de petits ateliers, de mini-laboratoires d'expérimentation pour tous les âges, les enfants, les ados et même les plus grands. Donc, on pourra retrouver un atelier YouTube, donc avec la rencontre de 2 YouTubeurs, un atelier de création musicale par ordinateur, des ateliers de mix en live, des initiations musique, des ateliers de danse, un atelier de développement photo argentique. Donc on a mis en place un laboratoire à l'ancienne. On met à disposition du public des appareils photo, des pellicules, et puis les gens peuvent prendre des photos de l'événement et venir les développer, les tirer, vraiment comme à l'ancienne. Et puis il y aura même une boum pour les enfants le dimanche après-midi.
Donc là, vous parlez de laboratoire. Ça veut dire que si ça marche, vous allez peut-être perdurer certains de ces ateliers ?
Et bah pourquoi pas, oui, on y pense. Notamment dans la MCC, le labo de photo argentique, on se dit pourquoi pas, ça pourrait être une des activités proposées à la MJC, oui.
D'accord. Et donc pour l'année qui vient, pour l'année 2020, est-ce qu'il y a un ou deux événements clés qui vont vous demander une organisation particulière ?
Oui, alors bah, on va passer déjà les 50 ans et puis après on déménage et donc on va retrouver la 20e édition du Printemps des Écritures qui va prendre du coup ses quartiers pour la première fois dans la nouvelle MCC du 27 mars au 17 avril. Donc ça sera une édition tournée plus sur les détournements de la calligraphie, notamment dans les croisements avec le street art. Donc on retrouvera comme d'habitude une exposition, un stage de 2 jours, des ateliers plutôt en soirée ouverts à tous les publics, des ateliers pour les scolaires aussi. Voilà, et puis arrivera du coup le 8 mai aussi, on participe à l'événement de la ville, Révolution. Et donc on proposera un spectacle qui mélange la danse et les arts numériques. Donc c'est une danseuse dans une boîte transparente sur laquelle il y a des projections qui sont animées en direct par un technicien. Donc le spectacle s'appelle Akanaï et donc on l'accueille 2 représentations le 8 mai.
Ben merci beaucoup Anne-Claire Turc. Je rappelle que vous êtes chargée de mission culturelle à la MJC. Et merci Nadège Tissot, directrice de la MJC. Une info en bref avant de se quitter. Les enseignants du lycée Lalande seront mercredi devant l'inspection académique de Bourg-en-Bresse pour protester contre la réforme du bac. Nous avions rencontré l'une d'elles dans À vous les Burgiens lundi 3 février. Son témoignage est à retrouver donc sur notre podcast radio-b.fr, rubrique « À vous les Burgiens ». Et demain, c'est le retour de l'information dans la matinale de Camille. Merci à Thomas Couty à la réalisation. Bonne soirée sur Radio B.
Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Des personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans. Et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes on les découvre autrement.
J'ai marqué.
Bah, un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.